Info matin, Nicolas Legrand.
L'aide d'urgence arrive à Port-Vila. Le centre d'aide d'urgence régionale a d'ailleurs été activé. Plusieurs avions militaires français ont déjà rallié le Vanuatu. Les besoins en eau sont notamment très importants. Emmanuel Macron, lui, attendu à Mayotte la nuit prochaine. L'aide humanitaire continue de se mettre en place. Là aussi, 120 tonnes d'eau et de nourriture devaient être distribuées la nuit dernière. L'actualité politique est François Bayrou qui poursuit les consultations. Dans une lettre, il invite les responsables politiques hors RN et LFI à Matignon pour la nuit prochaine. Il évoque une situation institutionnelle risquée, mais aussi la tragédie de Mayotte et le très lourd bilan des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Deux situations qui nous mettent devant des responsabilités inédites, écrit le Premier ministre. Du football avec un choc en Ligue 1 ce matin, un match avancé de la 16e journée du championnat de France entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné tout à l'heure à 7h. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur la pointe nord et le nord-est, le temps est chargé avec des averses. Ailleurs, sous un ciel voilé, le temps demeure sec. Quant aux températures maximales, elles restent élevées, souvent voisines de 30 degrés. Elles peuvent atteindre 32 à 34 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et direction le Vanuatu.
Oui, avec tout d'abord cette information qui vient tout juste d'être confirmée par l'ambassade de France au Vanuatu. Un Français résident au Vanuatu fait partie des victimes. Son corps a été retrouvé sous les décombres d'un bâtiment effondré dans le centre-ville. Le Bureau national de gestion des catastrophes a par ailleurs revu le bilan humain à la baisse. Il fait état non plus de 14 morts, mais de 9 ce matin. Un bilan qui est donc encore provisoire. 36 heures après le séisme qui a touché le Vanuatu, l'aide internationale, je le disais, continue à se mettre en place. Si l'aéroport de Port-Vila est toujours fermé au trafic aérien civil, les avions militaires peuvent, eux, se poser et commencer d'ailleurs à acheminer sur place vivres et matériel de secours, Léo Fichou.
Un Casa des Fancs s'est d'ailleurs posé hier soir à Port-Vila avec à son bord 5 tonnes de matériel. De l'aide d'urgence a également été dépêchée sur place par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les secouristes s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants pris au piège dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lors du séisme. L'aide internationale commence donc à arriver à Port-Vila. La France, grâce à la mobilisation des forces armées en Nouvelle-Calédonie, de la Croix-Rouge et de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, s'apprête à prendre toute sa part à cet élan d'entraide internationale. Écoutez Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat.
Nous nous sommes mis en ordre de marche pour pouvoir répondre aux demandes d'aide exprimées de manière formelle par le Vanuatu. Et donc nous avons construit une réponse opérationnelle au travers du comité d'aide d'urgence régionale qui est piloté par les services de l'État ici en Nouvelle-Calédonie, avec notamment les forces armées, la Croix-Rouge, la DGSCGR pour la Nouvelle-Calédonie et les représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Quelles sont les priorités à l'heure où nous parlons ?
La situation de Port-Vila en particulier est une situation difficile. Il y a des infrastructures dites critiques qui sont touchées. Je pense en particulier au système d'alimentation électrique. Je pense également aux réservoirs d'eau potable. Il y a des routes qui ont été abîmées, des ponts également qui ont été abîmés. Donc les besoins portent sur la restauration des services basiques à la population, mais également un apport d'aide très direct, très individuel. Et c'est pour ça que nous avons sollicité en particulier la Croix-Rouge, de manière à ce que cette aide puisse être apportée aux habitants eux-mêmes.
Et très rapidement après le séisme qui s'est produit mardi, la coopération liée aux accords France a été déclenchée. Le travail se fait donc en étroite collaboration entre les autorités françaises, australiennes et néo-zélandaises. Sur place à Port-Vila, c'est évidemment les personnels de l'ambassade de France qui sont en première ligne. Écoutez Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique.
Notre ambassadeur sur place, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, a maintenant des moyens satellitaires pour être en contact avec les uns et les autres. Et tout ça monte en puissance. Donc pendant ce temps-là, les uns et les autres sur place rejoignent les points de ralliement avec des plans de sécurité qui sont éprouvés tous les deux ou trois mois dans ce genre de situation et qui fonctionnent là. Chacun se remet en place. Coopération entre nous, France, Australie, Nouvelle-Zélande, localement, à Canberra, ici et à Suva. Et puis à Paris, le centre de crise et de soutien que vous connaissez et qui se met en place toujours très rapidement est mobilisé aussi. Donc on a des réunions deux fois par jour pour savoir quels moyens sont employés. Nous sommes en montée en puissance.
Des propos recueillis hier par Lionel Sabot. A noter que parmi les conséquences du séisme au Vanuatu, l'aéroport international de Port-Vila étant fermé, la rotation qui devait être opérée aujourd'hui par Air Calédonie en code cher avec Air Calin est annulée. La rotation prévue demain vendredi est opérée par Air Calin suspendue dans l'attente de nouvelles informations.
Et nous reparlerons de l'aide internationale qui s'organise après le séisme qui a touché le Vanuatu tout à l'heure à 7h30. C'est en effet Yvan Graiel, le responsable régional de la PIROPS, la plateforme d'intervention régionale pour le Pacifique Sud de la Croix-Rouge, qui sera notre invité du matin. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h passé de 36 minutes. Après la publicité, une autre catastrophe naturelle, ce coup-ci à Mayotte. Emmanuel Macron est attendu sur place la nuit prochaine.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ? Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile. Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
32 morts à Mayotte, c'est un bilan encore très provisoire après le passage du cyclone Chido. L'aide humanitaire continue de se mettre en place. 120 tonnes d'eau et de nourriture devaient être distribuées cette nuit pour nous. 20 tonnes arrivent quotidiennement, mais malgré tout, les Mahorais font face à des pénuries.
Un peu compliqué de trouver des bouteilles d'eau dans les magasins. Du coup, la plupart des gens se ravitaillent dans les rivières. Et j'ai vu même des gens boire de l'eau de la rivière qui n'est pas potable. C'est la seule solution pour survivre. On est dans le survie actuellement.
De l'eau, mais aussi du riz et des pâtes. Certains produits sont rationnés. Ramzi Boukri est responsable d'un supermarché.
On a déjà limité l'eau à un pack par client. On avait de l'eau ce matin, mais il y avait une grosse file d'attente. Et on ne peut pas laisser un seul client qui récupère pratiquement la totalité. Donc on essaie que tout le monde y sorte avec quelque chose le temps qu'on reçoit la marchandise.
Une situation qui crée des tensions. La police a dû intervenir dans un supermarché pour calmer les esprits. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est attendu à Mayotte la nuit prochaine et dans l'avion présidentiel, il y aura également évidemment des vivres, que ce soit de l'eau ou de la nourriture. Pas encore de fumée blanche pour le gouvernement Bayrou, alors que certains annonçaient que le Premier ministre avait rendu sa copie au président Emmanuel Macron. L'information a tout de suite été démentie par Matignon. François Bayrou qui va encore consulter les partis qui acceptent de travailler ensemble, Jacques Serret.
Oui, nous en sommes quasi au même point que la semaine dernière. Il y a 8 jours, Emmanuel Macron organisait à l'Élysée une réunion des différentes forces politiques hors RN et LFI. Depuis, comme vous le savez, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Et que fait-il ce soir ? Eh bien, il invite les mêmes, cette fois à Matignon. Rendez-vous demain à 14h. Le maire de Pau convie la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, les présidents de partis politiques et présidents de groupes qui ont eu, je cite, « la responsabilité des affaires du pays à une période de la Ve République ». Autrement dit, selon un conseiller de l'exécutif, ni LFI, ni RN et ses alliés, mais le groupe Liot est invité. Le courrier vient de partir. Le Premier ministre y explique qu'avant de proposer au président une composition de gouvernement, il veut les rencontrer pour les éclairer et les entendre sur les orientations que nous devrons suivre. Après avoir vu tout le monde séparément, François Bayrou convie donc à une même table ceux avec qui il veut bien travailler. Le signe que le nouvel hôte de Matignon est loin à ce stade d'avoir terminé la construction de son gouvernement.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et dans sa lettre d'invitation adressée aux responsables politiques, le Premier ministre François Bayrou évoque une situation institutionnelle risquée à laquelle s'ajoute, je cite, « probablement la catastrophe naturelle la plus grave de l'histoire de France avec la tragédie de Mayotte ». Le Premier ministre cite aussi la Nouvelle-Calédonie qui a été frappée par des émeutes dont le bilan est très lourd. Je cite encore « Ces deux situations additionnées nous mettent devant des responsabilités inédites », écrit donc le Premier ministre. Toujours au sujet des consultations en vue de former un gouvernement, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a de nouveau rencontré le Premier ministre pour y voir un peu plus clair sur la politique qu'il compte mener. et Bruno Retailleau l'a réaffirmé, il ne restera pas place Beauvau à n'importe quel prix. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Bruno Retailleau a été clair, sans faire de chantage. Il a renouvelé auprès du Premier ministre la liste des mesures qu'il souhaite appliquer coûte que coûte place Beauvau. On parle notamment de la réforme de l'aide médicale d'État, de la fin du droit du sol à Mayotte ou de la conditionnalité des aides sociales pour les étrangers à une durée minimum de séjour. Des propositions qu'il juge non seulement populaires dans l'opinion, mais aussi et surtout indispensables pour établir l'ordre et maîtriser l'immigration. Avec François Bayrou, se joue désormais un rapport de force qui ne dit pas son nom. Le Premier ministre aimerait ne pas se mettre à dos les socialistes. Bruno Retailleau exige lui des garanties et met en avant le poids de la droite au Parlement. 47 députés à l'Assemblée, certes, mais une majorité au Sénat et en commission mixte paritaire. Enfin, au-delà des demandes de fonds, la droite réclame des ministères, pas moins d'un tiers, confie un conseiller, pour tenter de peser au sein d'un exécutif qui devrait comprendre plus de socialistes que sous Michel Barnier. Une réalité qu'LR est prête à accepter en fonction du profil des nouveaux entrants côté PS.
L'actualité politique toujours est Marine Le Pen qui dit se préparer à une présidentielle anticipée. Elle déclare dans les colonnes du Parisien que la situation d'Emmanuel Macron est très fragile. Emmanuel Macron, c'est fini ou presque. Mon propos n'a pas vocation à être cruel, c'est une réalité institutionnelle, a déclaré Marine Le Pen.
À Radio Rythme Bleu, il est 6h41.
Et enfin, malgré la levée de boucliers contre la pose de 6 vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris, le projet s'est bien concrétisé la nuit dernière. Avec l'annonce de la lauréate qui dessinera donc les vitraux installés en lieu et place de ceux de Viollet-le-Duc, sauvé des flammes. C'est Claire Tabouret, l'une des peintres contemporaines les plus en vue, les plus cotées d'ailleurs en ce moment sur le marché de l'art. Pour le jury, polémique ou pas, son travail est une évidence. Caroline Baudry pour Europe 1.
Oui, travail présenté cet après-midi dans un préfabriqué du chantier de Notre-Dame. Les dessins de 6 vitraux, turquoise, jaune, rouge, des lumières dansantes, décrit l'artiste, et un thème figuratif, la Pentecôte, dont une scène est présentée dans un joyeux camaïeu de bleu.
Le vitrail, par son matériau même, va évoluer tous les jours, sera une expérience différente pour les visiteurs, sans cesse renouvelée, suivant la lumière, suivant l'heure du jour, suivant la météo. Tous les personnages sont réunis à l'intérieur de la maison en prière. Ils ont été en prière déjà depuis de nombreuses semaines, donc il y a une dimension extrêmement intérieure dans l'image.
Derrière ces personnages se dévoilent des vitraux dans les vitraux, ceux de Viollet-le-Duc représentés plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage.
Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender ce projet, avec beaucoup de respect de ce qui était avant et de ce qui sera après. Mais c'est ça qui est très enrichissant et merveilleux.
Les 121 mètres carrés seront réalisés par l'atelier de maître verrier Simon Marc. Interrogé sur la polémique autour du projet, l'artiste répond « Ce débat est passionnant. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, certes consultative, avait émis un avis défavorable. Cette même commission s'était opposée à la pyramide du Louvre et aux colonnes de Buren. Et l'association de défense du patrimoine, sites et monuments menace de saisir la justice une fois l'autorisation de travaux déposée pour ces vitraux. »
8 artistes avaient été retenus parmi les 110 candidatures et c'est donc Claire Tabouret qui a été choisie par le jury. Elle doit rendre son travail d'ici fin 2026. 6h44, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire avec notamment l'inauguration de la brigade de gendarmerie mobile de Moindoux.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Mercredi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Le Rouf. Info au 25 07 00 et réservation sur place. Retrouvez le menu spécial Saint-Sylvestre sur la page Facebook Le Rouf.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Oh, oh, oh! C'est Noël chez Mazda. Nous avons le plaisir de vous accueillir au showroom de Magenta.
À Noël, offrez à votre famille le cadeau parfait avec Mazda. Alliez qualité et prix attractif pour des moments inoubliables ensemble. Faites de cette fête un moment spécial où chaque trajet devient une aventure en famille. Toute l'équipe Mazda vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais, à Moindoux, la brigade de gendarmerie mobile a été inaugurée hier. De nombreux acteurs, dont le maire de la commune, Joe Perronnet, ont travaillé activement pour obtenir le retour des gendarmes à Moindou. Il l'avait d'ailleurs directement demandé au président de la République lors de sa venue sur la commune en 2023.
Emmanuel Macron, oui, que j'ai rencontré, voilà. On a discuté les yeux dans les yeux en lui disant que vous allez mettre 200 brigades mobiles, mais j'en voudrais une à Moindou vu qu'il m'en manque une. Et il a tenu parole et après il m'a envoyé le ministre des Outre-mer, M. Darmanin, qui nous a dit qu'on allait lancer la brigade. Tout de suite, on a mis tout notre possible pour remettre en état les villas qu'on avait à la commune, pour mettre à disposition des gendarmes. Et puis, ça fait qu'il y a 6 familles de gendarmes à Moindou maintenant. Et ça va beaucoup mieux. Il y a moins de délinquance, il y a moins de gymkhana dans les rues, il y a plus de sécurité, quoi. Et c'était le but, quoi. Le fourgon, il peut se déplacer et les gens, ils vont aller porter plainte directement. Surtout pour les violences conjugales, parce que les femmes, ils ne veulent pas aller à la gendarmerie ou par là se faire remarquer. Ils disent que là, ce sera anonyme, ce sera parfait pour elles. Et c'est vraiment un bon truc.
Et concrètement, les gendarmes de Moindou disposent d'un jeune truck, un véhicule mobile avec tous les équipements pour effectuer leur travail, y compris en déplacement sur le terrain pour aller au plus près des populations. Le général Mathéos, commandant des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Cette brigade, elle remplira des rôles classiques de contact, de sécurité publique, notamment pour les communes de Moindou, Saramae et Farino. Dès sa naissance, elle avait une vocation de protection des éleveurs, de sécurisation des grands espaces, parce que cette population d'éleveurs a besoin d'être protégée, a des besoins particuliers en termes de sécurité. C'est une priorité. Nous allons prendre en compte cette priorité. Nous l'avons déjà prise en compte, mais encore mieux avec cette brigade. C'est un projet, oui, qui est attendu chez nous, chez moi, de ma part, du maire, de l'État en général, et des Calédoniens, parce que vraiment notre vocation c'est la sécurité. Aujourd'hui, je le disais encore il y a quelques jours sur vos ondes, nous faisons le maximum pour assurer la sécurité calédonienne. Donc quand je gagne 5 gendarmes en plus qui vont être enracinés dans le territoire pour produire une meilleure sécurité pour les Calédoniens, pour moi c'est vraiment une source de satisfaction. J'ai confiance dans mes gendarmes, je sais qu'ils seront totalement engagés. J'ai confiance dans la commandante de brigade qui est une enfant du pays. Je sais que nous arriverons à être encore plus efficaces, à répondre encore mieux aux attentes des Calédoniens. Donc voilà, tout à l'heure je disais faites-nous confiance, et je crois que ce lien de confiance, il existe déjà entre la population et ses gendarmes, et il va être encore renforcé par la présence ici de cette brigade mobile.
Et un aspect important, c'est la lutte contre le braconnage, les actions de pêche illégale et la protection de l'environnement. Le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou, était présent pour l'inauguration de cette brigade mobile.
Nous étions ravis de savoir qu'une gendarmerie allait être créée particulièrement à cet effet, hein, ici sur Moindou. C'est une bonne concrétisation de ce projet pour nous. Les éleveurs craignent une augmentation des faits de vol de bétail et de braconnage, compte tenu de la situation socio-économique actuelle. Cette brigade est un signe fort. Il y a une collaboration avec toutes les brigades de gendarmerie, hein, de l'ensemble du territoire, avec des référents gendarmerie et des référents éleveurs dans chaque région. Tout ceci mis en place avec les équipes donc, du général Mathéos, et nous sommes ravis. Voilà.
Et une autre brigade mobile de gendarmerie verra aussi le jour prochainement sur la commune de Poya, plus précisément à Népouy.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La nouvelle brigade mobile de gendarmerie de Moindou va-t-elle permettre, selon vous, de lutter plus efficacement contre le braconnage ? Si vous pensez qu'elle va permettre de lutter plus efficacement contre le braconnage, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, alors que les mesures administratives sont assouplies, 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent que la vente des quantités de bière et d'alcool fort reste limitée. Ils sont 14% à ne pas le comprendre. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, un incendie hier après-midi à l'usine de Doniambo. Un plan des opérations internes a été déclenché peu avant 15h30 à la suite du constat d'un départ de feu sur une zone de stockage au sein de la halle Robert. Aucun blessé n'est à déplorer. La réactivité des équipes SLN comme celle des pompiers de Nouméa ont permis de maîtriser et de circonscrire l'incendie rapidement. À 16h35, soit à peine plus d'une heure après le départ, l'incendie était entièrement maîtrisé. Les opérations de l'usine de Doniambo n'ont pas été impactées. Une enquête sera diligentée pour déterminer la cause de cet incendie. Toujours en bref, du côté de Poum maintenant, le conseil municipal était réuni jeudi dernier en séance publique et les élus ont émis un vœu relatif au maintien du CHN de Koumac. Ils demandent que, je cite, « des réponses concrètes et rapides soient apportées de la part des autorités compétentes pour assurer une offre minimale de soins à la population du Grand Nord et maintenir l'activité de l'hôpital de Koumac ». Fin de citation. Le vœu sera transmis au commissaire délégué de la République pour la province Nord, mais également au président du gouvernement et au président de la province Nord. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi matin, le gouvernement anticipe d'éventuelles évolutions dans le secteur des télécommunications. Christopher Gigès, en charge de l'économie numérique, a signé hier dans ce sens une convention avec l'autorité de la concurrence. Elle doit permettre, explique-t-il, de préfigurer la mise en place d'une régulation indépendante des télécommunications en Nouvelle-Calédonie.
La régulation indépendante du secteur des télécommunications et d'Internet, déjà, c'est une mesure du PS2R pour améliorer les offres aux consommateurs, d'avoir plus d'offres de services et au meilleur prix. Et je pense que c'est important d'avoir une autorité indépendante qui est en capacité de challenger les différents établissements qui sont présents. Là, pour le moment, c'est l'OPT. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur l'autorité de la concurrence pour nous apporter une expertise et mettre en œuvre cette autorité indépendante. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur le marché qui est déjà ouvert, d'avoir cette expertise et donc de permettre d'avoir des meilleures offres, des meilleurs services et des meilleurs prix. Et une vraie expertise pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'assurer sa mission de régulation. Et à terme, d'avoir une vraie autorité de régulation indépendante qui permettra de challenger si le marché est ouvert des télécoms, si on a des nouveaux marchés qui s'ouvrent, d'avoir des nouvelles entreprises qui s'installent, d'avoir un accompagnement pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a une expertise certaine.
L'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie va donc apporter son appui technique. Écoutez son président Stéphane Rotterer.
On avait déjà recommandé ce modèle classique qu'on retrouve partout dans le monde et d'ailleurs dans le Pacifique, d'avoir une autorité de régulation indépendante dans des secteurs comme les télécommunications. Donc cette convention vise à accompagner le gouvernement dans cette direction. Il y a une méthode qui est mise en place avec un préfigurateur. Cette personne va venir, c'est un spécialiste du télécommunication, pour mettre en place les orientations qui seront décidées ensuite par le gouvernement pour mettre en place cette régulation indépendante.
Est-ce que cette autorité de régulation indépendante pourrait être une des missions de l'autorité de la concurrence? Est-ce que ça peut faire partie de son périmètre?
En fait, les autorités de régulation, elles sont multisectorielles, enfin, ou multifonctionnelles, on dit. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois une casquette de concurrence et de régulation. Nous, aujourd'hui, en Calédonie, nous n'avons que la casquette concurrence. L'idée, c'est d'avoir une deuxième casquette, la casquette régulation, et c'est ce vers quoi le gouvernement pourrait aller.
Ce travail de préfiguration de la mise en place d'une régulation indépendante des télécommunications ne fait que commencer et devrait aboutir d'ici un an environ, des propos recueillis hier par Jean-François Bodin. Le gouvernement a examiné hier un avant-projet de loi du pays qui concerne la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte contient des mesures qui visent à mieux encadrer certaines pratiques pour préserver le pouvoir d'achat et simplifier certaines démarches. Le texte suggère notamment de caractériser comme abus le fait qu'une entreprise en situation de position dominante applique des prix et des marges excessifs. D'autres modifications interviennent directement, explique le gouvernement, sur certaines pratiques entre fournisseurs et distributeurs. C'est le cas par exemple de la suppression de l'interdiction de toute forme de remise différée. Cet avant-projet de loi du pays permet enfin de mieux encadrer les délais de paiement entre les professionnels. Et si la relance économique calédonienne passait par le maritime, c'est en tout cas en ce sens que le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie a lancé une consultation en septembre dernier. Développement de l'aquaculture durable, mobilité maritime du Grand Nouméa, mise en place d'une filière de déconstruction navale et des infrastructures de levage ou encore faire de Nouméa une base technologique et un port scientifique. Eh bien, nous parlerons de ces projets portés par le cluster dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Et pour cela, nous serons en compagnie de Marc Sabatier, le président du cluster maritime, de Soisic Fleury, manager du cluster, et Duc Danis, qui est membre du conseil d'administration du cluster.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et ça approche, c'est déjà la semaine prochaine, Noël. L'opération au cœur de Noël se poursuit sur Radio Rythme Bleu. Il est plus que jamais temps de vous rendre aux 4 rues de Sébastopol. C'est dans nos studios pour déposer vos cadeaux pour les enfants des familles en difficulté qui ont été touchés notamment par les émeutes et leurs conséquences. De 7h30 à 19h, vous pouvez venir nous voir, visiter nos locaux et faire donc ce geste du cœur pour les enfants et les jeunes de 0 à 16 ans. Et hier, c'est Jocelyne qui est passée à la radio.
Je trouve ça tout à fait normal, parce que pour l'instant, mes enfants sont très grands, ils ne sont pas là. Donc, profiter, faire plaisir aux petits, c'est tellement important. Noël, c'est une fête extraordinaire, il faut leur donner beaucoup de bonheur aux enfants. Du maquillage pour la petite, des disques pour jouer dans la mer, là, vous savez, des bisbilles, quelque chose comme ça. Et puis un grand matelas pneumatique. Et puis une sirène pour aller dans l'eau. Beaucoup de bonheur, beaucoup de paix et d'amour, surtout.
Jocelyne, donc, qui faisait partie de toutes ces personnes qui sont venues hier nous rendre visite et déposer un cadeau pour les enfants en difficulté. Vous pouvez le faire encore de 7h30 à 19h aujourd'hui. Et puis ce week-end aussi, vous pourrez le faire, puisque vous le savez, c'est du 7 jours sur 7, ou alors directement au magasin Petit Dôme, route de Lensvata, qui est partenaire de cette opération du cœur. Il est 6h56, vous écoutez RRB. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et on va parler notamment de football, avec un choc qui compte pour la 16e journée de Ligue 1 ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ho, ho, ho. Le marché de Boulary vous accueille du 18 au 24 décembre inclus, de 6h à 12h pour son marché de Noël. Animation musicale, Père Noël, spectacle de magie, maquilleuse seront présents pour l'occasion. Stand à partir de 700 francs par jour, info sur le site Facebook Les Commerçants du Marché de Boulary, téléphone 96 07 09. Le marché de Boulary, le seul marché situé entre mer et montagne. Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est deux points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, hi-fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducos du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
Cette année, votre champ Kéferi vous fait le plus beau des cadeaux. On vous simplifie les fêtes. Plateau de fruits de mer, foie gras maison, menu gourmand de l'apéritif au dessert, plateau de charcuterie, fromage et de délicieuses préparations bouchères, nos équipes mettent leur savoir-faire à votre disposition. Passez commande au 24 30 60 ou directement dans votre champ Kéferi.
Avec Canal+, vivez les émotions de Noël. Profitez de l'offre exceptionnelle de cette fin d'année. Plus de 85 chaînes, dont toutes les chaînes Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs pendant 2 ans. À vous, le meilleur du sport et le cinéma ultra récent à prix canon. Un petit truc en plus, Mad Max Furiosa, Godzilla by Kong, Vice Versa 2 ou encore Le Comte de Monte Cristo. Tout ça arrive déjà sur Canal+. Alors faites-vous plaisir à seulement 3000 francs par mois. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection Plus, moins un coût offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 2 ans. Remise également valable pour un abonnement de 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football à la une avec tout d'abord ce choc de la 16e journée de Ligue 1, Léo Fichou.
Et oui, c'est le dernier match de l'année 2024 en Ligue 1. Et quoi de mieux qu'un choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain ? Il faudra ensuite patienter jusqu'au premier week-end de l'année 2025 pour voir de nouvelles rencontres du championnat de France. Ce week-end-là, le PSG et Monaco disputeront, eux, le trophée des champions. D'où ce match avancé à ce matin, la rencontre entre le leader et le troisième démarre à 7h, donc dans quelques minutes.
Du football toujours, avec un nouveau titre pour Kylian Mbappé et le Real Madrid.
Oui. Ils ont remporté ce matin la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Une victoire 3-0 grâce notamment à un but de l'attaquant français contre Pachuca, le club mexicain vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions de la CONCACAF.
Du tennis avec la calédonienne Leilani Ipuneso qui continue son aventure au tournoi de Tauranga en Nouvelle-Zélande.
Elle a éliminé hier l'Australienne Amelia Zilberman en 3-7, 6-4, 2-6, 6-4. Elle retrouvera ce matin dès 8h la japonaise de 24 ans Hiromi Abe en 8e de finale. A noter que dans le tableau de double, l'autre calédonienne Caroline Delaunay et sa partenaire joueront à 8h les quarts de finale contre la paire néo-zélandaise, tête de série numéro 4 du tournoi.
Et puis du handball avec les sélections jeunes qui jouent l'IHF Trophy en Polynésie française.
Ce jeudi à 7h, les moins de 18 ans affrontent la Nouvelle-Zélande, puis à 13h, les moins de 20 ans joueront, eux, contre l'Australie. Pour rappel, hier, les U20 se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande 29-20, après avoir battu les Tahitiens 34-18. Les U18, eux, ont écrasé les Samoa-Américaines 56-14.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. Alors en journée, ce sera sur la pointe nord de Calagomenapou, mais sur le nord-est de Ponéréouin, Aouégoua, pour un risque d'averse orageuse. Ce risque se décalera vers Ouvéa la nuit prochaine. Ce matin, sur le nord-est, la pointe nord et les Loyautés, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses de la pointe nord à Lifou. Elles seront parfois modérées. Ailleurs, le temps sera sec et le ciel lumineux malgré les nuages d'altitude. Le vent pour ce matin, orienté à l'est-sud-est, il reste faible, souffle autour des 5 nœuds. Cet après-midi, sur la pointe nord, le nord-est, le temps sera chargé avec des averses qui pourront être localement fortes et orageuses. Quelques ondées sont possibles sous un ciel nuageux sur le relief sud et le nord des Loyautés. Alors, sous un ciel voilé, le temps demeurera sec. Sur l'ouest, les brises orientées sud-sud-est pour cet après-midi entre 5 et 10 nœuds. Sur les autres régions, le vent sera voisin des 5 nœuds, voire variable faible sur le nord-est. Les températures maximales pour terminer, elles seront voisines des 30 degrés. Elles pourront atteindre 32 à 34 degrés. Ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.